Aujourd'hui, nous accueillons Alexis Lopez, un éco-aventurier, réalisateur de documentaires et photographe. Dans une de ses dernières aventures, Alexis décide de reprendre le temps et de voyager comme en 1900. Dans ce nouvel épisode des Aventuriers engagés, il nous parle du pourquoi et du comment il s'est lancé en aventure, de son rapport à l'écologie et de son futur projet. Bonne écoute!
Alors moi, je suis Alexis Lopez, je suis auteur, réalisateur et aventurier. Donc j'écris des films et des vidéos autour de mes aventures. Je réalise aussi pas mal de photos de ces aventures. Et je suis spécialisé dans les aventures, disons, vintage, proches de la nature, ou alors un petit peu extrême. On peut dire ça de temps à autre. Alors moi, j'ai très peu voyagé quand j'étais petit. Au contraire, en fait, je viens du côté de Bordeaux, donc les seuls voyages, vacances que je faisais, c'était soit à la frontière espagnole ou alors vraiment sur la côte ouest de Girondine, tout simplement. Et donc voilà, on allait avec mon père qui faisait du windsurf sur la côte. Et puis j'ai toujours justement rêvé de traverser cet océan, d'aller plus loin que ça. Et puis en grandissant, mon désir de partir à l'aventure était de plus en plus fort. Donc j'ai commencé à faire des randonnées en France. Et puis petit à petit, j'ai rencontré du monde à droite à gauche, des gens qui, eux, étaient, disons, de vrais aventuriers professionnels, et notamment Baptiste Dullard, qui est une personne avec qui je suis parti en Sibérie faire une aventure assez extrême où on a traversé l'Oural prépolaire à pied, et puis ensuite en radeau pendant à peu près 17 à 20 jours en autonomie, sans nourriture, sans GPS, sans téléphone satellite. Donc voilà, c'était vraiment une première grosse expérience à l'étranger. Mais c'était pas ma première expérience à l'étranger, mais disons que c'était ma première expérience vraiment de voyage, d'aventure, voilà, non touristique à l'étranger. Et donc c'était une révélation pour moi à ce moment. Et je me suis dit, ok, Alexis, c'est pas tout à fait ça que tu veux faire, parce que là, c'était un peu trop borderline pour moi, c'était trop extrême. Mais pour autant, j'ai pu prendre conscience de mes capacités et à la fois mes limites. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, il faut que tu adaptes le curseur, mais l'aventure, c'est vraiment fait pour toi et faut continuer là-dedans, quoi. Alors, oui, j'ai commencé à documenter cette première aventure, mais c'est quelque chose que je faisais avant. Moi, je viens vraiment de l'audiovisuel. J'adore raconter des histoires. Et à la base, je suis parti avec Baptiste Dullard, parce que j'ai fait un documentaire en fait pour lui, pour la chaîne Ushuaïa Télé. Et j'ai filmé aussi le backstage de cette aventure que j'ai diffusée sur ma chaîne YouTube. Et en fait, j'ai toujours eu ce truc-là de vouloir partager, de vouloir inciter les gens aussi à partir à l'aventure, mais pas que. C'est-à-dire que si demain je travaille sur un autre domaine que l'aventure, je sais que je vais vouloir faire de la vidéo, de la photo, j'adore ça, j'adore l'art, j'adore la création visuelle et j'adore surtout raconter des histoires, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est pour ça aussi que j'aime bien aller dans des zones où je vais faire des rencontres, chose qu'on a assez peu faite en Sibérie, mais que j'aime bien faire aujourd'hui. Là, je suis parti récemment au Kirghizistan, où j'ai rencontré du coup des nomades kirghizes, et je repars bientôt au Pérou, où je vais rencontrer encore des autochtones, donc des Kairos à plus de 6000 mètres d'altitude. Donc ça va être une expérience incroyable aussi. Mais voilà, il y a vraiment ce truc-là de vouloir raconter des histoires, quoi. La nature est omniprésente dans mes aventures. Je pars pas déjà si c'est pas pour rencontrer la nature et me retrouver. En fait, la nature pour moi, c'est vraiment ma zone de méditation, on va dire. Quand je suis en voyage, en aventure, toutes mes pensées s'arrêtent. Je suis quelqu'un qui pense énormément en permanence quand je suis en ville. Là, en ce moment, je suis du côté de Paris et j'ai besoin de cet espace-là. La nature, c'est vraiment, c'est ça en fait. C'est vraiment. C'est le calme, c'est l'anxiété au stade zéro, c'est pas de stress. Je suis à l'aise en fait en milieu naturel. Et évidemment, je pense que dans mes projets, notamment les plus récents projets que j'ai faits, il y a une démarche en effet écologique, puisque pour mon dernier périple, je suis parti voyager comme dans les années 1900. Donc j'y suis parti pour plusieurs raisons qui sont vouloir reprendre le temps par rapport justement à une société où on est très stressé, etc. Et reprendre le temps du voyage, donc y aller plus lentement. Mais aussi, tout simplement, parce que j'avais envie de bouger avec des animaux en pleine nature et donc à cheval, etc. Et évidemment, partir avec des chevaux, c'est forcément moins polluant que de partir avec un gros 4x4, par exemple. Donc, il y a, je pense, en effet, une démarche écologique dans mes voyages de plus en plus. J'essaie aussi de partir avec uniquement du matériel que je vais trouver en fripe, recyclé, etc. Je suis vraiment dans cette démarche-là de plus en plus du voyage lent. Et bien sûr, l'objectif d'ici 1 an, 2 ans, ça va être de pouvoir entreprendre des grands voyages sans prendre l'avion. Je suis en train de mettre en place justement des solutions pour ça. C'est des choses qui sont beaucoup plus compliquées à mettre en place, puisque aujourd'hui, comme vous le savez, hein, tout est évidemment conçu pour qu'on aille vite, qu'on prenne l'avion et qu'on rentre vite pour continuer à retravailler. Enfin bref, voilà, évidemment, je comprends que les gens se sentent obligés de prendre l'avion quand il faut faire des longs déplacements. On ne peut pas tous partir en ballon dirigeable ou en voilier, quoi. Donc voilà. Alors je pense que mon envie de voyager, mon envie d'aventure a vraiment changé avec le temps. Au début, c'était vraiment pour, je pense, découvrir des choses. Ça l'est toujours aujourd'hui. Mais plus personnellement, c'était, je pense, pour me découvrir moi et voir où est-ce que j'étais capable d'aller. Quelles étaient mes limites? J'ai vu que mes limites, enfin, c'est dur à dire, hein, mais j'en avais quasiment pas. J'étais prêt à risquer ma vie pour des aventures. Je me mettais dans enfin, vraiment en danger, danger de mort très souvent. Et puis petit à petit, j'ai pris conscience de tout ça, j'ai pris conscience de ma santé mentale, j'ai pris aussi conscience de pourquoi j'avais besoin autant d'aller dans l'extrême, notamment avec des séances de psychologie. Je me suis rendu compte que j'étais déconnecté de mes émotions. Ça, c'est lié à des traumatismes qu'on peut avoir dans sa vie, notamment étant enfant. Et donc comme j'étais déconnecté de mes émotions en France, j'avais besoin de m'y reconnecter avec des choses hyper extrêmes. Et petit à petit, j'ai appris à apprivoiser mes émotions, et notamment grâce à ce dernier voyage au Kirghizistan, et grâce aux cheveux, grâce aux animaux, j'ai réussi justement à me reconnecter à moi-même, à me reconnecter à mes émotions. Et en fait, actuellement, j'ai beaucoup moins envie d'aller dans des situations extrêmes. Au contraire, ce qui va m'intéresser, c'est plus la rencontre des autres, la rencontre de moi-même, l'exploration de moi-même. Souvent, je dis que je suis explorateur, mais ce que j'explore le plus, c'est moi et mes émotions et ma psychologie au final, pendant le voyage. Donc voilà, je suis beaucoup plus dans cette démarche-là. Ce que je fais, on va pas se mentir, ça reste de l'aventure. Je pense que c'est pas non plus à la portée du premier venu qui veut s'y mettre. Et vraiment, c'est un truc que je rappelle à tout le monde. Faites attention quand vous partez à l'aventure. Il y a de réels risques. Des gens qui se mettent tous les jours dans le rouge, quoi, à l'international, en haut de sommet. Enfin bref. Mais voilà, il y a vraiment ce truc-là cette démarche qui a changé. Je pense qu'on a tous les aventuriers ont une démarche. En tout cas, la mienne maintenant, c'est celle-là. C'est vraiment voyager pour se retrouver, pour se dépasser, certes, mais dans le respect de sa santé mentale. Et puis voilà. Ouais, non, non, c'est une très bonne idée. Il y a tellement de choses que j'ai du mal à choisir. J'ai vraiment du mal à choisir une chose que je pourrais retenir de cette dernière aventure, tellement elle était riche, en fait. Évidemment, j'ai envie de dire qu'il faut protéger la nature parce que c'est un espace de liberté dans lequel on a tous quelque chose à créer, c'est sûr. Mais en fait, si j'ai vraiment un message, je pense, à faire passer aux gens, ça serait leur proposer de réfléchir davantage au pourquoi est-ce qu'on va voyager, que ce soit un voyage complètement touristique à 100% dans les clous, que ce soit un voyage hors sentier, etc. Moi, je sais que j'ai souvent été confronté à aller dans le dur, vraiment le dur, d'aller au plus profond. De ce qu'on peut ressentir, quoi, vraiment dans ces aventures. Et en fait, on pense souvent que c'est là qu'on va se trouver, mais en fait, non, là où on se trouve le plus, c'est justement en étant en accord avec nous-mêmes et dans le respect de nous-mêmes. En fait, c'est une question d'ouverture. Quand on voyage, on pense qu'on voyage pour aller rencontrer des gens, mais en réalité, ce qu'on rencontre le plus, c'est nous-mêmes. Et je pense que ce qui est important, c'est vraiment de réfléchir à tout ça et de prendre conscience de l'impact qu'on a, nous, vis-à-vis des locaux, vis-à-vis des gens, et de nous avec nous-mêmes aussi. Qu'est-ce que le voyage nous apporte et comment modifier cette perception du voyage pour que ce soit de plus en plus bénéfique pour nous et à la fois pour les gens et pour l'environnement. Il y a 1 milliard de façons de voyager. Franchement, moi, je côtoie des dizaines et des dizaines de personnes qui veulent se mettre à l'aventure, puisque j'ai lancé il n'y a pas longtemps un programme justement pour former les gens qui veulent devenir de futurs aventuriers. Et je me rends compte qu'on a tous des visions, mais complètement différentes. On a tous un pourquoi en nous. Et voilà, c'est important de savoir, même si on est amateur, même si demain on veut bouger, ce pourquoi, qu'est-ce qui nous fait vibrer, parce qu'on a tous un impact. Donc c'est important d'avoir conscience de ça, je pense. Ouais. Alors, le programme Devenir aventurier, justement, je commence déjà par essayer de trouver le pourquoi chez certaines personnes qui veulent devenir aventurier professionnel, qui souhaitent se professionnaliser. Il y a toute une étape, justement, de développement personnel. Oui, c'est possible aujourd'hui en 2023 de vivre de ses rêves, de vivre de l'aventure. Maintenant, il faut savoir comment s'y prendre, comment ça marche, comment créer son identité d'aventurier, etc. et voir sur quelle plateforme est-ce qu'on veut travailler. Puisqu'évidemment, devenir aventurier, personne n'est payé à devenir aventurier. Pour devenir aventurier professionnel, il faut forcément communiquer ou créer quelque chose, donc soit un bouquin, soit un documentaire, soit etc. etc., etc. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir accompagner les gens là-dessus. Certains deviennent guides, d'autres peuvent devenir formateurs, d'autres finissent par lancer une chaîne YouTube ou un compte Instagram, peu importe, mais voilà, c'est des domaines que je commence maintenant à maîtriser et c'est vrai que c'est hyper agréable de se dire qu'il y a une nouvelle génération vraiment d'aventuriers, d'aventurières qui arrivent, mais qui n'a rien à voir avec les aventuriers d'il y a 50 ans. Vachement plus en phase avec l'environnement, beaucoup plus de femmes et dans une démarche aussi où il y a un respect il y a un respect des gens, il y a un respect de nous-mêmes, on n'est plus du tout dans le cliché de Bill Grylls qui va boire son urine et qui va voilà, faire des trucs extrêmes et qui va polluer tout. Enfin, on n'est plus du tout là-dedans aujourd'hui. Et ça fait vraiment plaisir à voir, vraiment. De plus en plus, ouais, j'ai même pas encore lancé officiellement la formation, le programme. Mais j'ai déjà eu, ouais, là je suis sur quasiment une dizaine de personnes que je suis en train de former pour le moment. Donc ouais, ça commence bien. Et c'est assez fou de se dire qu'en fait, il y a déjà plein de gens qui ont essayé, en fait, mais soit qui n'ont pas réussi parce qu'ils n'avaient pas les codes ou une compréhension du milieu, soit qui se basaient sur un schéma d'il y a 30-40 ans, parce qu'en fait, il n'y a évidemment pas d'école aujourd'hui pour devenir aventurier professionnel ou vivre du voyage. Donc, ouais, il y a vraiment un besoin. Et je suis super content parce que là où tout le monde me disait, ah ouais, mais c'est pas vraiment un métier il y a 5-10 ans. Là, je suis en train de me rendre compte que, bah, si, en fait, il y a plein de gens qui veulent vivre de ça, et c'est chouette parce qu'en fait, il y a une réelle demande en face, il y a des gens qui ont besoin aussi, qui ont envie d'être inspirés. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure du voilier, mais typiquement aujourd'hui, c'est très compliqué de s'imaginer faire un long voyage en voilier, et du coup, on a besoin d'aventuriers, on a besoin de gens qui communiquent sur ces façons de faire pour pouvoir faire en sorte que demain, bah, peut-être des touristes ou peut-être des aventuriers amateurs se diront, bah tiens, il y a tel aventurier, tel aventurier, tel aventurier qui ont fait un voyage en bateau, en voilier, mais peut-être que nous, on pourrait aussi faire un voilier ou un voyage en voilier. Peut-être qu'il y a même je l'espère, des sociétés qui vont se lancer sur ce genre de choses, quoi. L'aventure, ça peut être autant on part de chez soi avec pas un rond en poche, une pancarte avec marqué voilà, je veux aller jusqu'à Budapest. Et ça peut être autant faire une expédition à la Mike Horn à 200 000 euros. L'aventure, c'est vague. C'est pour ça que c'est important que chacun vraiment comprenne son pourquoi, le pourquoi est-ce qu'il veut partir à l'aventure et qu'est-ce qui compte, quelles sont les valeurs. Je sais que moi, je n'ai pas du tout les mêmes messages à faire passer que, par exemple, je prenais Mike Horn comme exemple, mais que quelqu'un comme Mike Horn. Mais pour autant, ce qu'il a à faire passer, c'est quand même important comme message. On a vraiment, c'est ça qui est beau, en fait, je trouve, avec l'aventure, c'est qu'on a tous notre façon de concevoir l'aventure. Justement, je trouve que c'est vraiment une force. On parlait la dernière fois de la Bretonne en stop, mais on peut aussi parler de Loury Lag qui fait des expéditions extrêmes. Enfin, voilà, c'est des démarches complètement, mais qui n'ont rien à voir, complètement à l'opposé. Mais pour autant, ça reste de l'aventure. L'aventure, on pourrait passer des heures à la définir, mais je pense surtout que c'est aller à la rencontre de soi et à l'inconnu et à la rencontre des autres, en fait, tout simplement. Et en effet, ça peut se faire chez soi. Moi, je sais que dans ma conception de l'aventure, j'ai besoin d'aller à l'étranger parce que je trouve que c'est important. D'avoir ce truc-là de comprendre les autres peuples. Et je trouverais dommage qu'on se contente uniquement à la France, parce que j'ai peur que ça ait une vision à long terme un peu trop la France aux Français est vraiment patriote et on se ferme, vraiment on ferme les yeux et on reste sur nous et on a des œillères. Et ça, je pense que ça peut être très dangereux pour la démocratie et plein d'autres choses. Donc voilà, je souhaite aller à l'étranger, mais pour autant, il y a des aventuriers. Antoine, par exemple, Antoine Explore le France, il s'appelle sur Instagram, qui est un ami aventurier qui lui est spécialisé dans la France. Donc voilà, c'est aussi une démarche d'aller uniquement en France et de rendre compte comme ça que, ben ouais, en fait, il y a des paysages de dingue en France et il y a des gens à découvrir aussi, quoi. Alors, il y a eu un voyage dans lequel j'ai eu un éveil environnemental particulier, mais c'était un voyage très spécial. Je suis parti en Ukraine au début de l'invasion russe l'hiver dernier. J'ai couvert le début du conflit pendant environ 2 mois. J'étais sur les lignes de front, mais pas que. Hein. Je suis aussi allé à la Odessa et dans les zones un peu plus préserver l'Ukraine. Là, ouais, je me suis dit qu'en effet, c'était. C'est triste, mais j'ai eu un manque d'espoir à ce moment-là. Je me suis dit, putain, c'est chaud. C'est chaud et il y a du boulot. Parce qu'une guerre, forcément, ça pollue, mais on n'imagine même pas à quel point c'est un dégât environnemental de fou. Et l'Ukraine va mettre du temps à s'en remettre, évidemment, de cette guerre et des dégâts humains qu'il y a derrière, mais aussi des dégâts environnementaux. On peut parler de Tchernobyl, où il y a eu plein de choses qui se sont passées récemment, mais aussi plein d'autres zones en Ukraine. Mais ouais, bien sûr, sur ce voyage-là, je me suis dit ça. Mais par ailleurs, aussi en Sibérie, perdu au fin fond de l'Oural, on retrouvait quand même des traces de l'homme. Et là, c'est chaud. Parce qu'on a fait une partie du voyage en radeau, et on s'est rendu compte que. Enfin, vraiment, c'était fou. On faisait des plans de drone, le drone partait en l'air. Il était à 40 mètres au-dessus de nous. Nous, on était sur le radeau, au milieu de la taïga. On était sur notre radeau. Vraiment, c'était rien de plus pur, quoi. Et il y avait à l'horizon, c'était l'infini d'arbres. Mais vraiment l'infini. Impossible, mais on pouvait le faire monter à 200 mètres, le drone. Impossible de voir plus loin que cet infini d'arbres. On était vraiment au milieu d'un truc. Il n'y a rien de plus pur, quoi, de plus naturel, on va dire. C'est vraiment la forêt, voilà, l'essence même de la forêt. Et on s'est rendu compte que même là, au milieu de rien, à plus de peut-être, ouais, c'était 800 km des premiers villages, villages qui sont accessibles que par hélico. Même là, on avait des traces de l'homme. On a retrouvé des bouts de ferraille, on a retrouvé des bouts de conserve. Mais c'est juste, c'est des gens qui sont venus bosser il y a 40, 50 ans, faire de l'extraction minière, etc. C'était de très, très vieux objets, hein, ça datait pas d'hier. Mais bon, on n'en croisait pas partout, hein, attention, hein, on en a vu deux, trois, quoi. Mais on se dit quand même, waouh, c'est fou, quoi. Même là, c'est chaud. Donc, ouais, faut mettre le paquet sur les nouvelles générations, faut éduquer les gens, c'est sûr, et c'est important que des podcasts comme celui-ci existent, je pense, pour faire parler les personnes qui ont un véritable engagement envers tout ça, et notamment envers le voyage qui est, on peut le dire, hein, une pratique qui pollue pas mal. Donc, faut trouver des solutions, faut réfléchir à tout ça. Et tous à notre échelle, je pense que si on le fait, ouais, il peut s'en tirer de bonnes choses. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire à mon échelle et d'influencer, puisque c'est aussi mon métier de faire la création de contenu et d'influencer les gens, à voyager de façon plus saine et responsable. Bah, on a vraiment notre rôle à jouer. C'est fou de se rendre compte l'impact qu'on a auprès des jeunes, notamment. J'ai vu une étude il n'y a pas longtemps, comme quoi 40% des gens sélectionner leurs vacances sur Instagram et sélectionner des vacances en fonction de leur côté Instagrammable. Est-ce que ça va être beau en photo? Est-ce que je vais pouvoir partager mon contenu? C'est pour dire à quel point on a un impact en fait en tant que créateur de contenu sur les réseaux. Donc c'est d'autant plus dans cette période qu'il faut, je pense, former de futurs aventuriers. Et puis en fait, c'est notre responsabilité. Moi, vraiment, en tant que créateur de contenu, je me dis, OK, c'est ma responsabilité si des gens prennent l'avion, si des gens veulent aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Je suis allé au Kirghizistan voyager à cheval. J'ai reçu ouais, pas moins de 10, 15, 20, peut-être personnes qui m'ont dit, bon, ben, let's go, je pars d'ici le mois prochain au Kirghizistan à cheval. Ça m'a trop donné envie. Bon, tant mieux, je suis content et tout. Mais celui-là, je suis en train de me dire, ah ouais, OK, on a vraiment un impact. Donc, faut vraiment qu'on réfléchisse à ça et qu'on. Pour ça que j'essaie, par exemple, de plus en plus, enfin, c'est même pas de plus en plus, hein, c'est tout le temps maintenant, c'est ma condition, de travailler avec des agences d'écotourisme sur place qui ont non seulement un impact très très faible sur l'environnement, ou en tout cas positif, et surtout qui font travailler des communautés locales. Je ne souhaite pas faire travailler des Français expatriés au Pérou, je veux faire travailler des Péruviens au Pérou, en fait. Et les gens pourront voir dans toutes mes vidéos. Je mets vachement en avant mes guides aussi, par exemple, que j'ai sur place. Au Kirghizistan, il y avait Bakit, donc un guide kirghize, que je mets en avant. C'est incroyable. Il parle français alors qu'il n'est jamais venu en France. Il connaît extrêmement bien notre culture et tout ça. Et il adore recevoir des touristes. Bon, mais let's go. Il faut mettre en avant ce genre de personne-là qui va être. imprégné de son territoire, qui va connaître les cultures et qui, en plus de ça, va vachement respecter son terrain. Parce que c'est son terrain de jeu. Il va pas faire le con avec son terrain de jeu. Et il va dire aux touristes, toi, t'inquiète, tu vas pas faire n'importe quoi aussi. Donc c'est important, ce truc-là, je trouve. Alors, dans l'idée, là, ce dernier projet au Pérou, ça serait de partir rencontrer les Kairos. Ça, c'est un peu le truc numéro un du projet. Les Kairos qui sont perchés à plus de 5-6 000 mètres d'altitude. Pour ça, il va y avoir un énorme trajet à cheval, à pied, etc. En théorie, on devrait voir des ours à lunettes. C'est une race d'ours. Voilà, ben, on va vivre into the wild, vraiment comme j'ai l'habitude de faire. Donc, je vais faire comme d'habitude, quoi. Je vais fabriquer des abris, on va pêcher, on va cueillir, on va rencontrer des populations locales pour pouvoir se nourrir. Voilà, de la même manière que j'ai l'habitude de voyager depuis le Kyrgyzstan, c'est-à-dire comme dans les années 1900. Voilà, donc je vais faire ça et donc on va aller rencontrer ces Kairos, essayer de comprendre comment est-ce qu'ils vivent. Les Kairos, c'est en gros les derniers Incas, c'est ce qu'il faut retenir. Ils sont vraiment perchés en haut de la montagne. Donc je pense qu'on a beaucoup à apprendre en fait de ce type de population qui justement vivent un peu plus dans le respect de la nature que nous. Et donc voilà, j'aimerais aussi beaucoup rencontrer un ou une chamane Kairos pour le plaisir culturel. Et puis après, on va aller essayer de dormir sur le Calcaya, qui est un glacier au Pérou, voilà, qui sera là un penchant un poil plus sportif de l'aventure. Et l'idée, c'est vraiment faire au moins une nuit ou deux sur ce glacier. Et voilà, ça sera déjà pas mal, je pense. Et après, je pense qu'on va faire pas mal de jours aussi Into the Wild, vraiment. Dans la nature, profiter, dessiner, écrire. Je prends beaucoup de temps en fait. C'est vraiment un temps introspectif pour moi, ces voyages. C'est comme une résidence un petit peu artistique où voilà, j'aime bien juste écrire. Je prends ma plume, je prends mon encre. Je vais passer des fois une après-midi à écrire. Des fois, je peux sculpter du bois. Enfin voilà, je fais toutes sortes de distractions comme ça qui juste me reposent en fait et me font du bien. Et voilà quoi. Et au fur et à mesure de mes voyages, en fait, j'ai vraiment changé mon mode de vie en France d'une façon simple, c'est que je deviens extrêmement minimaliste. J'ai trois pulls d'hiver dans mon armoire, pas plus. J'ai deux pantalons que je fais tourner. Je caricature pas, hein, c'est la vérité. Hein. Voilà, en fait, j'ai pas besoin de plus. Je me rends compte de ça. Quand on voit que parfois des populations autochtones perchées à 4 000 mètres, comme j'ai pu rencontrer au Kyrgyzstan, arrivent à vivre avec 15 fois moins que nous, juste parce qu'en fait, dans leur philosophie, bah, ils prennent juste le temps de prendre des rayons du soleil le matin, ils sont vachement plus en nature, ils sont moins derrière les écrans, et ceci, cela. Alors attention, il y a aussi des problèmes, des fois, certains sont alcooliques, etc. Faut pas c'est pas que des bisounours, mais il y a quelque chose vraiment à retirer de ces voyages et de ces rencontres-là. Et en fait, ce que j'en retiens, c'est la sobriété, en fait. Et la meilleure moyen de... On a fait une table ronde il n'y a pas longtemps avec My Better Self et d'autres influenceurs autour de la consommation. Et en fait, ce qu'on retient de cette table ronde, dont le sujet était comment mieux consommer, c'est bah, c'est en fait mieux consommer, c'est avant tout consommer moins, en fait, juste être plus sobre. Si on ne consomme pas, bah, tout simplement, il n'y a pas d'impact. Donc à partir de là, ouais, j'essaie de ne pas me créer de besoins. Si vraiment j'ai envie d'un truc, absolument, que j'ai envie de faire un craquage, j'attends déjà 15 jours pour voir si mon craquage, enfin voilà, si l'idée de ce truc me passe ou pas. Et puis je me rends compte qu'au début, enfin maintenant ça va mieux, mais au début je me rendais compte que ouais, 90% du temps en fait, ça passait au bout de 2 semaines. Donc c'est qu'il y a un problème. C'est bien que la société, les publicités, tout ça nous pousse à consommer des choses dont on n'a pas vraiment envie ou besoin. Et aujourd'hui, je passe minimum 1h30 dans la forêt par jour. Je me rends compte qu'au lieu de les passer sur un truc que j'aimerais consommer ou je ne sais quoi, en fait, mon temps de plaisir et de bonheur, il est là, il est en forêt. Parfois, j'écoute un podcast, parfois, je réponds à un message d'un ami ou j'appelle quelqu'un, mais j'ai besoin de ce temps-là en nature, vraiment. Et j'espère d'ici 3, 4, 5 ans, aller vivre pleinement à la montagne à plein temps et avoir. Voilà, un lieu avec des chevaux, des animaux et pouvoir être en harmonie avec cette nature-là, quoi. Et vraiment dans une sobriété, mais poussée encore plus loin, quoi. C'est important et je pense qu'en fait, plus je suis dans une sobriété, en fait, matérielle, et quelque part, ben, plus c'est simple aussi dans ma tête. Vraiment, je me rends compte de ça aussi. Mais je me rends compte d'une chose, c'est que en fait, plus les gens sont mal dans leur tête, moins ils sont en accord avec eux-mêmes, avec leurs convictions, avec leur bien-être mental, et plus on est dans une société où on va consommer pour combler en fait ces manques. Demain, si je prends quelqu'un que je l'amène à la montagne faire une aventure avec moi sur 10 jours, son téléphone, il va pas lui manquer. Je m'en rends compte vraiment quand j'amène des gens en voyage. Consommer, ça va pas leur manquer. Les restos, ça va pas leur manquer. En réalité, ça leur manque pas parce qu'en fait, ils sont dans un environnement naturel et ils sont en sécurité. Là où ça va les manquer, c'est effectivement s'ils sont tout seuls, etc. Et qu'ils flippent parce qu'ils ont peur de dormir dans une tente et tout ça. Mais ça, c'est de l'éducation. Il faut apprendre aux gens à un peu plus aussi aller en nature et tout ça. Mais ouais, je me rends vraiment compte de ça, que en fait, on a tout ce qu'il faut en nature, en fait, pour être pleinement entier et comblé. Il y a plein de gens qui me disent, mais Alexis, tu te rends pas compte, si je viens avec toi, je vais péter un boulon au bout de 3 jours, il va me falloir enfin, j'ai trop envie de faire un resto où je vais avoir besoin de mon téléphone, d'aller appeler ma mère, ceci, cela. Et en fait, non, pas du tout. Quand on y est dedans, quand on est vraiment dans l'instant présent, ça tout se dissipe et c'est juste, on prend du temps pour soi en plus, quoi. Donc, je suis sûr que la clé, elle est là-dedans, dans le fait d'aller un petit peu plus en nature, justement. Si j'avais un seul conseil à donner aux nouvelles générations, ça serait qu'ils s'écoutent, en fait, qu'ils écoutent leurs valeurs, leurs envies, et qu'ils ne se laissent pas influencer, justement, par les générations passées, qui ont tendance à être parfois un petit peu trop donneurs de leçons. Et je pense que c'est important qu'on trace tous notre route à notre façon et en fonction de notre temps. Et le temps d'aujourd'hui, c'est un temps dans lequel la planète se meurt, l'humanité plutôt se meurt, parce que la planète survivra, mais pas nous. Et il est temps de prendre soin de l'environnement, d'autant plus sur la thématique de l'aventure et du voyage, et de faire des actions concrètes pour ça. Et voilà, c'est le conseil que j'aurais donc à donner. Écoutez-vous et vraiment, tout est possible, quoi. Quand on se lance comme ça, le premier sentiment qu'on a, c'est celui d'avoir peur. Et si ça peut rassurer ceux qui nous écoutent, à chaque fois que je pars en aventure, j'ai peur. Pourtant, je suis allé sur des terrains de guerre, pourtant j'ai fait la Sibérie, j'ai fait des aventures, j'en ai fait plein. Et même des aventures non filmées donc, que je médiatise pas et dont je parle très peu. Des aventures vraiment extrêmes. J'ai toujours peur à chaque fois que je pars d'aventure. Et pourquoi? Ben, pour une raison simple. Si j'avais pas peur, ça veut dire que ce ne serait pas de l'aventure. Ça veut dire que ce serait juste, je vais faire les courses, quoi. Et ça veut dire que je serais inconscient. Donc si vous avez peur en vous lançant dans de l'aventure, si vous avez peur en vous lançant dans un nouveau discours, une nouvelle façon de voir les choses qui peut perturber certaines générations, ben, c'est normal en fait. Et c'est pas grave, et c'est OK d'avoir peur. Et c'est tant mieux même, parce que ça va vous protéger. Mais il faut juste à un moment donné essayer de surpasser cette peur et de se dire, OK, ça le fait et il faut y aller. Donc si je peux vous le dire, ben voilà, vous inquiétez pas, OK, ça va le faire. Donc allez-y, foncez et n'ayez pas peur. Mais vous allez quand même avoir peur, mais c'est pas grave. Allez-y, foncez.
C'était le nouvel épisode du podcast Aventurier Engagé produit par la Water Family, association à l'écologie depuis 2008. Retrouvez Alexis Lopez sur tous ses réseaux en légende et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager autour de vous.